Rock and roll est pas qu'un pas de boisson gazeuse à spespicola. C'est ça qu'ils veulent. Alors maintenant, chez nous, c'est Hugo Boss, Calvin Klein, etc. Qu'est-ce que... Mais ça m'énerve. Excuse. Je m'énerve. Quand même, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez aimé les chansons folkloriques. Merci. Mesdames, messieurs, alors, la prochaine fois que nous pouvons encore venir ici chez vous, nous donnons la version originale de l'atelier numéro 15. L'intégrale. Jamais joué, jamais donné. 5 heures. Magnifique. Pour vous remercier de l'accueil si gentil. Et quand même, excusez ce soir. Hein. Vive les échanges culturels. Vive l'amitié entre les peuples. Vive le canton de Vaud. Vive le théâtre.
Ouais, vive l'anarchie. Radio Liberté 89.4 FM, la voix de la fédération anarchiste. En quelques secondes, même pas, microsecondes, le Ferry Club. Non, un peu plus que microsecondes. Faut pas déconner.
Vous êtes sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la fédération anarchiste.
Libertaire, le Ferré Club, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, hommage à Jean-Michel Defaille.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Voici le second de vos invités, Léo Ferré, c'est Jean-Michel Defaille. C'est un garçon que vous connaissez bien aussi.
Depuis 10 ans.
C'est un musicien extrêmement classique.
Il travaille avec moi. C'est le musicien de mes chansons aussi et dans mes disques. Et je crois c'est le monsieur qui écrit dans l'ombre les orchestres, les orchestrations de toutes mes chansons. Et je pense qu'il est pour une grande partie responsable du succès de cette chanson dont on me dit qu'elle marche beaucoup en ce moment, qui s'appelle C'est Extra.
Oui, vous avez dit d'ailleurs un jour que c'était le seul arrangeur avec qui vous puissiez travailler.
Je ne veux pas me fâcher avec tous les arrangeurs, il y a de mauvais, je ne citerai pas, mais j'ai dit un jour qu'il y avait deux arrangeurs formidables en France, c'est Michel Legrand et Jean-Michel Defaille. C'est Jean-Michel Defaille, il travaille avec moi et souvent ça lui fait du tort. Quand les autres maisons me disent, on travaille avec Ferré, alors c'est pas bon.
Ouais, c'est dur à soutenir ça.
Hein. Je connais un directeur artistique, un directeur je ne sais où, dans une maison vaguement hollandaise, n'est-ce pas, qui vend des frigidaires aussi, qui a dit un jour, ce type il s'appelle Azan d'ailleurs, pourquoi pas le dire, n'est-ce pas. Il a dit un jour à Jean-Michel Defaille, mais qu'il devait faire un arrangement pour une petite chanteuse, il a dit, comment, mais vous allez louper la séance, c'est tout de même quelque chose, n'est-ce pas?
Léo Ferré, quelle est la fonction exacte d'un arrangeur?
Mais je crois que le mot est moche, vous savez.
Oui, ça fait pas sain.
Non, l'arrangeur, c'est un monsieur. Ce mot vient d'origine anglo-saxonne. C'est-à-dire que il y a quelques années, enfin, je crois que ça se passe encore en Amérique comme ça. Il y a des gens qui sont des mélodistes, qui font une mélodie, et il y a l'arrangeur qui fait toute une musique de film de 1 heure sur une mélodie de 16 mesures, par exemple. Vous comprenez? Qui réinvente tout, qui orchestre.
C'est pas un orchestrateur.
C'est aussi un orchestrateur. Oui. L'arrangeur est aussi orchestrateur. Oui.
C'est un monsieur qui sacrifie son talent pour celui d'un autre.
Dans le cas, oui. Sûrement. Et puis, dans le cas de Jean-Michel Defaille, Jean-Michel Defaille n'est pas un arrangeur. Jean-Michel Defaille est un musicien, est un compositeur. Et c'est en tant que compositeur qu'il écrit les orchestres de mes chansons.
tous ces bijoux qui brilleront sans toi quand tu ne seras plus là. Tous ces voyous qui ouvriront leurs bras à d'autres gosses qu'à toi. Tous ces baisers qui font des nuits cousues dans de drôles de tissus. Toutes ces pensées que l'on voit dans la rue aux bras des inconnus. Tu veux tout ça maintenant, avant que tu ne sois trop vieille, avant qu'on ne t'emporte derrière la dernière porte qu'on fermera sur tes merveilles. Maintenant, les plaisirs qu'on achète avec des mains de femme, les sourires que l'on prête aux objets qu'ont une âme. Maintenant, les voyages en voiture au volant d'une romance, les parfums, les fourrures pour pas que s'enrhume la chance. Maintenant, les beaux calendriers où le soleil s'allume quand le soir va tomber dans un lit de fortune. Maintenant. Tous ces serments que l'on tient pour la vie, pour une heure, pour la nuit. Tous ces printemps dans le milieu du lit et la rose qui luit. Tous ces plaisirs qui allument des feux aux quatre coins des yeux. Tous ces plaisirs qui vont toujours par deux comme les amoureux. Tu veux tout ça maintenant, avant que tu ne sois trop vieille, avant qu'on ne t'emporte derrière la dernière porte qu'on fermera sur tes soleils. Maintenant, les chansons que l'on chante avec des cris de femmes, quand les violons s'enchantent en vous donnant leur âme. Maintenant, les orages d'amour sur des poitrines nues, quand on va faire un tour au bout d'un inconnu. Maintenant, en attendant, inquiète et pleurant sous les rires, qu'une horloge indiscrète vienne tout bas te dire. Plus jamais. Thank you.
phrase ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste en dormant, léger qui me frôle, un souffle posé, ouais, une rosée contre mon épaule, un front qui s'appuie à moi dans la nuit, de grands yeux ouverts. M'a semblé comme un champ de blé dans cet univers, un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse et mon cœur défunt prenait au parfum qui fait l'ombre douce. Il n'aurait fallu un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne.
Jean-Michel Defaille.
Bonjour Benoît.
Un des premiers avec qui vous avez travaillé, c'est justement Léo Ferré, au début dans des chansons de Baudelaire, dans son premier album Baudelaire.
On avait fait un disque en collaboration en fait. Bon, il y avait moi au piano, il y avait son accordéoniste préféré qui était Jean Cardon, il y avait Mimi Rosso à la guitare, il y avait Fred Herbelin à contrebasse. Il devait y avoir un batteur, je ne sais plus lequel. Enfin, on était un petit noyau et chacun donnait son idée. On a fait un travail de collaboration sur chaque titre. Ça a été très amusant à faire, très, très sympathique.
Mais alors, on peut dire que vous vous êtes trouvés tous les deux, Ferré et vous, parce que c'est une collaboration aussi longue, sur autant de chansons pendant tant d'années, avec une espèce de couleur que vous avez donnée à vraiment chacune de ces,
oui,
de ces chansons.
Oui, on a eu des atomes crochus, voilà. Oui. Ah bon, après, moi, je suis parti à mon service militaire, mais en rentrant, alors... Ferré m'a récupéré, ouais. Et c'est là où j'ai fait le premier disque avec lui chez Barclay.
Voilà. Mais alors, on sait que Ferré, des années plus tard, a beaucoup mis en avant ses ambitions lui-même de musicien classique, de chef, etc. Mais est-ce qu'il avait déjà, au départ, quand vous travaillez ensemble, où il n'était que compositeur, auteur-compositeur, est-ce qu'il avait quand même des idées d'orchestration ou est-ce que c'était vous
oui,
qui décidiez tout?
Il connaissait bien la musique, Léo. Ouais. Il avait fait des études, il pouvait être orchestré lui-même. D'ailleurs, par la suite, quand il m'a abandonné, entre guillemets, c'est lui qui a fait tout le travail.
Et alors, dans toutes ces chansons, Aragon, Verlaine, etc., il vous disait un peu, tiens, là, j'aimerais telle couleur ou
comment? Oui, avant de faire un grand disque, moi, j'allais dans sa propriété, là, à Perdrigal, dans le Lot, et on travaillait deux ou trois jours, comme ça, sur les chansons. Il me donnait des idées. Alors, je lui disais, oui, je suis d'accord pour ça, mais à mon avis, ça serait mieux si on faisait autre chose. Vous voyez, il y avait une collaboration très étroite, tous les deux, sur chaque titre, sur chaque chanson.
Et le travail de studio, à l'époque, alors, j'imagine que c'était assez différent d'aujourd'hui, il y avait des gros moyens, on avait les meilleurs musiciens de Paris.
Ben, c'est-à-dire que moi, j'avais carte blanche avec Eddie Barclay. Pour ça, je suis très reconnaissant. Je pouvais prendre 3 musiciens ou 40, il n'y avait pas de problème.
Ah oui, c'est ça.
Bon, voilà. Et on travaillait, surtout quand on a fait des albums de Verlaine, Rimbaud et puis Baudelaire, on faisait que trois titres par séance.
Ah oui.
J'avais les musiciens de Paris, les meilleurs.
Tout était écrit avant.
Ah, tout était écrit, bien sûr, et c'est rare qu'il y avait quelque chose à changer d'ailleurs. Et on avait un merveilleux preneur de son, qui était M. Gérard Lénaire. On avait quelqu'un qui faisait la direction artistique, qui était Pierre Chalet, qui était un excellent musicien. Donc on avait vraiment les meilleures conditions de travail possible. Et on le ressent d'ailleurs sur ces titres.
Il était, par rapport à... on sait que bien souvent, les grandes vedettes de la chanson veulent un peu tirer la couverture à eux dans le travail des chansons. Comment il était dans ses rapports avec vous, chef d'orchestre et arrangeur
Il n'y avait pas de problème, c'était très simple. Oui. On s'entendait très bien les deux. Oui. Oui, ça marchait bien, c'était une bonne entente.
La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse. Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et quand octobre souffle et mondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leur marbre. Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps, tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés, travaillés par le verre, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver. Et le siècle coulé sans camille ni famille remplace les lambeaux qui pendent à leur la bûche siffle et chante. Si le soir, calme, dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir. Si, par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre, grave,
et venant du fond de son lit éternel, couvait l'enfant grandi de son œil maternel. Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse. pas encore en robe d'été, blanche et jaune avec des fleurs de rideau. Mais vous n'aviez plus l'humide gaieté du plus délirant de tous nos tantôt. La petite épouse et la fille aînée étaient reparues avec la toilette, et c'était déjà notre destinée qui me regarde sous votre volette. Soyez pardonné, et c'est pour cela que je garde, hélas, avec quelque orgueil, en mon souvenir qui vous cache là, l'éclair de côté que coulait votre œil.
Avec là votre tranche hebdomadaire de Léo entre 16h et 17h sur Radio Libertaire 89.4 FM. La voix de la Fédération anarchiste, bien évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis un peu effacé cette semaine pour laisser la place à la musique, pour laisser la place à la musique de Jean-Michel Defaille, qui nous a quittés tout récemment. Et cette émission est un hommage, bien évidemment, à Jean-Michel Defaille. Je vous ai proposé, comment dire, quelques-uns de ces bijoux qui brillent sans lui maintenant qu'il n'est plus là. Et il a fallu faire des choix parmi ce que je vous ai proposé. Je vais désannoncer dans quelques instants les chansons que je vous ai proposées. Mais vous dire peut-être avant quelques ressources qui sont parues au sujet de Jean-Michel Defaille, que vous trouverez en lien, bien évidemment, quelques articles, quelques hommages, on va dire, sur les internets. Le premier dans l'ordre peut-être de l'officiel, d'une certaine manière, c'est un communiqué de presse du ministère de la Culture, signé de Madame Rachida Dati, hommage à Jean-Michel Defaille, que je vous mettrai en lien, bien évidemment. Peut-être que je peux vous en lire deux mots rapidement. Monsieur Jean-Michel Defaille nous a quitté à l'âge de 92 ans. Ce grand musicien, aussi à l'aise pour composer des bandes originales de films que pour arranger les chansons de Léo Ferré, nous laisse une œuvre particulièrement éclectique, par-delà les frontières du genre et du style. Né en 1932, il avait appris la musique très jeune, remporté le premier prix de composition au Conservatoire National Supérieur de Paris en 1959. Reconnu pour sa technique aussi bien que pour sa capacité à jouer avec les registres et les styles, il avait composé plusieurs bandes originales pour le cinéma, comme Pouic Pouic de Jean Giraud, Le Bonheur d'Agnès Varda, tout en arrangeant les chansons ou en accompagnant à la direction d'orchestre les plus grands artistes de la chanson française, parmi lesquels Léo Ferré, Catherine Sauvage ou Guy Béard. J'adresse mes condoléances à ses proches. Voilà, je vous mettrai en lien si vous avez du plaisir à relire ce genre d'officialité, ma foi. Voilà, pour faut le noter quand même. Je vous mettrai en lien également sur le blog la fiche de Jean-Michel Defaille à la SACEM. La SACEM a un petit musée en ligne d'une certaine manière, et donc elle propose des fiches des artistes qui sont présents dans ce musée. Et je vous mettrai en lien, il y a quelques déclarations de chansons de Léo, je sais plus précisément lesquelles, je les ai pas là. Paris je ne t'aime plus, c'est extra, deux autres, il y en a quatre en tout. Je vous mettrai ça intéressant, c'est des documents historiques, toujours assez intéressant à les consulter. Et bien évidemment, j'aurais pu commencer par celui-ci parce que c'est celui qui nous touche le plus et sans doute le plus émouvant et le plus proche de nous, c'est l'hommage rendu par Alaric Perrollier sur le site leo-ferré.com. un très joli texte avec beaucoup d'émotion. Alaric a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Jean-Michel Defay. Il le connaissait non pas bien, mais il s'était rencontré plusieurs fois, donc il y avait quand même une certaine complicité, on va dire. Et cet article s'intitule « Le meilleur arrangeur de la chanson française des années 60 n'est plus ». Il a été publié le 4 janvier dernier. Je vous lis peut-être quelques extraits de ce... Je vais le faire assez vite parce qu'il y a une émission après, mais je vais quand même vous lire peut-être quelques extraits. Il y a un chapeau assez intéressant. Enfin, intéressant, c'est pas une question d'intérêt, mais... C'est avec fatalisme, mais un pincement au cœur, que nous avons appris le décès de Jean-Michel Defay le 1er janvier, à l'âge vénérable de 92 ans. Il était le dernier grand représentant de la chanson française des années 60, âge d'or rétrospectif pour beaucoup, qu'après Aznavour et Gréco, et plus récemment Alain Goraguer, eurent passé l'âme à gauche. Arrangeur des chansons et chef d'orchestre des sessions d'enregistrement de Léo chez Barclay de 60 à 70, Jean-Michel Defay était l'un des derniers témoins de premier plan de la vie de Métamec à être encore de ce monde. Je souhaitais m'exprimer ici à son propos, et effectivement Alaric a quelques considérations très intéressantes au sujet de Jean-Michel Defay. Je ne les retrouve pas ici parce que la vie moderne c'est une chose, je vais les retrouver dans quelques instants. La vie moderne c'est bien, mais parfois ça a un peu ses limites. Alors il fait une première partie de texte où il s'intéresse aux arrangeurs d'une manière générale. Alors cette première partie de texte peut-être un peu discutable, mais qu'importe, notamment sur Alain Goraguer, mais qu'importe, passons. Et il a en revanche ensuite toute une partie sur le rapport direct entre Léo et Jean-Michel Defay. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps de le lire, mais je vous mettrai vraiment ce lien. Je vous recommande vraiment la lecture de cet article d'Alaric qui est très intéressant et qui est très émouvant. Peut-être vous lire ceci, Defay a fait Ferré aussi, avec le concours essentiel de l'ingénieur du son Gerhard Lehner, on ne le dira jamais assez. Defay a su rendre Ferré évident selon les critères esthétiques de la chanson populaire de son temps, à lui faire tenir son rang et en quelque sorte, tout en s'efforçant de répondre au mieux au désir de grandeur et d'implacabilité de l'artiste. Et cela avec une sobriété d'exécution, un classicisme le prémunisant de l'abus de gimmick, d'effets de mode, de faute de goût, pas toujours, et un sens mélodique irrésistible au diapason de celui de Léo, qui en font selon moi le plus grand mec parmi les arrangeurs de cette ère. Voilà, un texte très émouvant et très beau, dont je vous recommande vivement la lecture. Je vais désannoncer un petit peu ce que nous avons écouté durant cette heure. Nous avons commencé avec un très court extrait, d'une émission intitulée RTL Non-Stop, proposée par Philippe Bouvard sur la radio précédemment citée. Ensuite, nous avons... Alors, il a fallu faire des choix, hein. Effectivement, on pourra s'étonner, je comprendrai tout à fait, et d'ailleurs je l'ai mis sur le blog, on pourra tout à fait s'étonner que, par exemple, les chansons Spleen et Les Poètes de 7 ans ne soient pas dans la programmation que je vous ai proposée aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait, je le regrette, parce qu'elles auraient dû figurer dans cette émission, ces deux chansons particulièrement, mais elles sont au programme de la semaine prochaine, donc d'une certaine manière, j'avais pas envie de faire doublon, c'est dommage, mais voilà, je me suis contenté, entre guillemets, de ces chansons, et puis, du coup, bah voilà, aller en chercher d'autres que ces deux chansons assez évidentes. Donc nous avons écouté Plus Jamais, un extrait de La Langue Française, l'album, paru en 62 chez Barclay. Ensuite, quelques œuvres de Jean-Michel Defay. Alors, je vais peut-être citer les chansons de Léo que nous avons écoutées. C'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Nous avons écouté Il n'aurait fallu, hein, une chanson d'Aragon, hein, mise en musique par Léo et Jean-Michel Defay en 61. Nous avons écouté L'âge d'or également, une version orchestrale enregistrée en 1960, parce que la chanson L'âge d'or pouvait ou aurait paraître sur l'album Panam de 1960, elle n'a pas été retenue, elle sera réenregistrée par Léo pour l'album Léo Ferré 1916-1903 Petit Point, et cette version orchestrale de L'âge d'or nous est restée. Donc on entend Jean-Michel Defay qui donne les instructions au démarrage de en direction de l'orchestre. Donc voilà, c'était aussi cette petite évocation. La Servante au grand cœur, Évidemment, Léo Ferré chante Baudelaire en 1967 chez Barclay. La Zenana, une version alternative enregistrée le 14 avril 1970 par Jean-Michel Defaille, qui ne sera pas retenue. Et puis, en dernière, l'avant-dernière chanson, parce qu'on va en écouter une pour terminer l'émission, Je vous vois encore. Voilà, Paul Verlaine. Bien évidemment, j'ai choisi dans le répertoire des poètes mis en musique par Léo parce que l'association d'idées Jean-Michel Defaille, Léo Ferré nous fait, je pense aux amateurs et amatrices de Léo, nous fait directement penser au travail de collaboration qu'ils ont eu sur la mise en musique de poèmes. Et en ce qui concerne les œuvres de Jean-Michel Defaille, nous avons écouté quelques-unes, notamment extraites de ses albums Éclectisme sonore. Nous avons écouté Magma, de la Marseillaise à l'international, une espèce de magma effectivement musical, paru en 1973, donc sur l'album Éclectisme sonore chez Patchwork. Après une petite concoction mozartienne, on va dire, avec À la Turque, la marche turque, sortie sur l'album Mozart Jazz Trio en 1991 chez Forlan. Nous avons écouté également ce petit succès que Jean-Michel Defaille a connu avec cette chanson Guitare Tango, parue en 45 tours en 1961 chez Philips avec Barthélémy Rosso qui accompagne Jean-Michel Defaille à la guitare, bien évidemment. Nous avons écouté également À la manière de Bach, composé par Jean-Michel Defaille avec le tromboniste, parce que Jean-Michel Defaille a beaucoup écrit pour le trombone. L'occasion de saluer Jeanne, une tromboniste que je connais, que j'aime bien. Donc salut à toi Jeanne. Donc cette œuvre à la manière de Bach, composée par Jean-Michel Defaille avec Jacques Mauger au trombone et Jean-Michel Defaille au piano qui l'accompagnait. Un extrait de l'album Showcase paru en 2006 chez Musicware Communication. Après quoi nous avions Musique pour timbales, un extrait de l'album Éclectisme sonore de 1973 et enfin une petite pièce musicale intitulée Thé dansant. Voilà, donc j'espère que cette petite programmation en hommage à Jean-Michel Defaille, eh bien, vous aura permis peut-être de découvrir au-delà de ses travaux avec Léo, ses différentes compositions, et peut-être vous donnera envie d'aller les écouter, d'aller découvrir un peu mieux l'œuvre de Jean-Michel Defaille en tant que tel, hein, non pas forcément en tant qu'arrangeur de la chanson française et tout particulièrement de Léo, mais il a écrit également il a composé beaucoup d'œuvres, et ben voilà, c'était un petit aperçu en hommage à Jean-Michel Defaille qui nous a quitté le 1er janvier dernier. On va terminer l'émission avec une chanson qui doit beaucoup, que nous aimons énormément à Radio Libertaire, peut-être chez les anarchistes d'une manière un peu plus large, et une chanson dont le dynamisme doit beaucoup, beaucoup, beaucoup aux arrangements de Jean-Michel Defaille, et probablement que sans la patte Defaille, cette chanson qui nous donne énormément d'énergie, eh bien, ne distillerait peut-être pas autant d'énergie s'il n'y avait pas la force de ces cuivres, notamment. Nous allons bien évidemment écouter les anarchistes. Prenez soin de vous, prenez soin d'elles. À la semaine prochaine.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas un sursang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et elle n'a pas un sursang, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
La fin du Féricom Club. Bye bye.
Pistolet, Dieu ne tord que d'un œil, l'autre reste toujours ouvert. Pistolet, Dieu ne tord que d'un œil, suis d'un côté et d'envers. Oh, oh. Pistolet Joe, Pistolet Joe m'a tapé dans l'œil, mais un jour il m'a trompé. Pistolet Joe, tu ne l'as pas volé, la balle qui t'a épargné. Ah, ah, ah. Pistolet Joe. Pistolet Joe. Irrésistible avec son grand œil crevé. Oh, oh, oh. Pistolet Joe. Oh, 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 oh. Pistolet Joe.
Ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été. Y a plein d'enfants qui sont...
à toutes et à tous, et particulièrement bonjour à Suzanne et Jérôme que j'ai croisés tout à l'heure à Publico. Deux jeunes qui veulent s'investir à l'AFA, ça fait quand même plaisir de rencontrer des gens motivés. Eh bien, pour nous, il est 17h, nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Nous sommes en direct pour 1h30 de partage de livres. 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Francis et Eugénie Dubreuil, artiste peintre qui vient de donner au musée Sainte-Croix de Poitiers près de 500 œuvres regroupées dans une thématique qui s'appelle La Musée. Elle nous expliquera pourquoi et que vous pouvez retrouver dans un très beau catalogue. C'est évidemment un des objectifs de notre émission, présenter aussi des catalogues d'expositions. Tout de suite, je voudrais signaler au titre des annonces, puisque Frédéric m'a dit que nous n'avions pas, nous, d'annonce particulière pour le groupe Commune de Paris, les éditions Noir et Rouge organise le samedi 1er février et le dimanche 2 février, de 10h à 18h et de 11h à 16h, une fête du livre avec des milliers de livres neufs et d'occasion, de la BD, des romans, des essais, des livres d'art, parfois épuisés, introuvables, à des prix d'occasion. Cette fête du livre se déroule 8 impasse Crozatier, Paris 12e, au métro Faidherbe Chaligny, sur la ligne 8 quand elle n'est pas en panne. C'est une habitude chez nous, on fait toujours attention, on est très prudent avec la RATP. Alors, en plus, tout de suite, une annonce un peu déjantée pour une exposition drôle sur le thème trop sérieux s'abstenir. Hein. Je veux dire, si vous êtes là, non, c'est pas très intellectuel. Bon, c'est non, si, d'ailleurs, ça l'est. Hein. Janvier, en fait, janvier, c'est un mois un peu terne sur Paris. Les éclats de lumière des fêtes s'estompent dans la grisaille du temps. Bah oui. Et si nous en profitions pour trouver une drôlerie, on va s'amuser dans une ambiance potache, rabelaisienne, un peu énorme pour reprendre la formule du Père Ubu. Ça s'appelle une exposition qui s'appelle Croutas à Montparnasse. Eh oui, deux compères de Montparnasse, Mathieu Lebal de la Galerie Les Montparnasse et Pierre Schoeckle du bistrot chez Marcel, nous livrent une exposition farfelue de croûtes, de ces tableaux étonnants. Vous dites, mais c'est pas possible, des gens ont pu faire ça? Ben oui, tenez, on trouve même des variations de celui du Père Noël est une ordure, vous savez, vous retrouverez certainement, avec aussi une fascination pour le Johnny, je crois qu'on l'a même, Agnès, je crois qu'on l'avait même vu en canevas, oui, ça s'invente pas quand même. Hein. Bon, et puis les dégradations garanties de tableaux de maître, particulièrement la jeune fille à la perle, là, c'était difficile à reconnaître. Et puis des chiens, des chats qui, à défaut d'empaillés, se retrouvent peints sur du velours. C'est grotesque, oui, c'est drôle. Un côté Les Copains de Jules Romain, vous connaissez ce livre sans doute, un humour estudiantin, l'accueil est des plus chaleureux, jusqu'au 25 janvier, ça va aller vite, hein. Allez au 5 et au 7 rue Stanislas, Paris 6e, et puis en fin de journée, vous aurez même droit à un casse-croûte, et surtout, on prend rendez-vous pour d'autres expositions, là, de beaux talents, parce que régulièrement, au Montparnasse, nous en faisons état d'ailleurs, Agnès nous fait part de l'intérêt de cette exposition des catalogues, et puis juste à côté, des belles tables en ces mêmes lieux. Voilà, on voulait en faire état. Merci. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, ou sur le blog du groupe Commune de Paris. Vous cliquez sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Alors on démarre. On démarre avec tout d'abord un livre consacré à la ville. Bon, Alors nous avions, donc on va engager le débat, premier livre pour engager le débat. Nous avions déjà présenté dans notre émission